Rediffusion.
Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'immisce dans une décision de justice et ce sont les Roms qui en font les frais. Les Roms représentent 8% de la population de la Hongrie. Ils sont sédentarisés depuis des siècles, parlent tous le hongrois et ils sont victimes de nombreuses discriminations. Dans le nord du pays, un tribunal a décidé d'indemniser 60 enfants Roms victimes de ségrégation à l'école. Un reportage de Florence Labruyère dans un village où les tensions entre communautés s'exacerbe.
Perché sur une colline entourée de vignobles, Gyöngyöspata est une commune de 2500 habitants du nord de la Hongrie. Les Tziganes, un quart de la population, vivent dans un quartier pauvre en lisière du village. Dans sa maison en briques, Emma Balani alimente le poêle avec des déchets de bois trouvés à la décharge. Emma vit avec ses deux petits-fils qu'elle a élevés. Christopher et Richard ont aujourd'hui 20 et 22 ans. Pendant leur scolarité à l'école primaire du village, ils ont été systématiquement discriminés en raison de leur origine tzigane.
On était séparés des autres pour le déjeuner et on était dans une classe à part, tout niveau confondu. La prof passait un quart d'heure avec les CM1, un quart d'heure avec les CM2 et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne en 15 minutes ? On avait des toilettes séparées que personne ne nettoyait et on n'avait pas droit à la piscine.
Après un procès intenté par une association, la justice a condamné l'État hongrois à verser des dommages et intérêts à 60 anciens élèves de l'école, victimes de ségrégation scolaire. À eux deux, Christopher et Richard devraient recevoir l'équivalent de 8000 euros. Il y a un mois, la Cour suprême confirme que les indemnités devront être versées. C'est alors que le Premier ministre intervient. Lors d'une conférence de presse, Viktor Orban remet en cause la décision des juges.
Je ne suis pas du village de Gyöngyöspata, mais si je vivais là-bas, je me demanderais comment il est possible que des membres d'un groupe ethnique qui vivent avec moi dans la même communauté reçoivent une telle somme d'argent sans la gagné, alors que je me tue au travail toute la journée. Je ne sais pas encore exactement quoi faire, mais ça ne peut pas rester comme ça. Nous devons rendre justice aux habitants de Gyöngyöspata.
La déclaration du Premier ministre fait l'effet d'un coup de tonnerre. Viktor Orban déclare en outre que les Roms devraient être indemnisés en nature, en bénéficiant de formations financées par le montant des dommages et intérêts. Geza Cemer est le président du Conseil des Roms de Gyöngyöspata. Il est choqué par les propos du chef du gouvernement.
Il y a une décision de justice et il faut l'appliquer. Le Premier ministre n'est pas au-dessus des lois. Ce sont eux qui ont fait ces lois, ce ne sont pas les Roms. Et maintenant, ils disent qu'elles ne sont pas bonnes.
Selon l'avocate des Roms, Lila Farkash, il est impossible de modifier la décision du tribunal.
On ne peut pas transformer les indemnités en compensation en nature, c'est trop tard. La partie adverse nous a effectivement envoyé une vague offre de négociation, mais les Roms l'ont rejetée. Ils savent très bien qu'ils peuvent avoir accès gratuitement à des formations financées sur fonds européens. C'est l'Agence pour l'emploi qui s'occupe de ça.
À Gyöngyöspata, le député local du parti de Viktor Orban met de l'huile sur le feu. Il attise la rancœur des habitants non-Roms. Résultat, la tension monte, comme le décrit Geza Cemer, le président du conseil tzigane.
Dans les magasins, dans la rue, les gens interpellent les Roms et ils leur disent de laisser tomber ces indemnités. Ils les menacent. Moi, j'ai reçu des lettres anonymes. On me conseille de ne plus m'occuper de tout ça, sinon j'aurai des problèmes.
Mon fils a 40 ans. Quand il était petit, il a été tabassé par des enfants Roms. Moi aussi, je devrais toucher des dommages et intérêts, affirme une résidente qui refuse de parler au micro. Un sentiment partagé par la majorité des habitants non-Roms. Pour sa part, l'avocate Lila Farkash a confiance dans la justice. Ce qu'elle craint, c'est l'augmentation de la tension entre les deux communautés. Une tension provoquée, à son avis, par le gouvernement.
C'est un jeu politique. Le gouvernement s'est peut-être rendu compte que le sentiment anti-migrant s'essoufflait. Alors il a trouvé un autre bouc émissaire, les Roms.
On a vraiment peur. Le jour où on touchera nos indemnités, les Hongrois ne nous laisseront pas en paix. J'oserai plus mettre le nez dehors. Déjà là, quand je sors, les Hongrois me disent « Sale tzigane, attends un peu avec ton argent ».
Emma, la grand-mère de Christopher et de Richard, vit aujourd'hui dans la peur. À Gyöngyöspata, les deux communautés se regardent en chien de faïence.
Evacuated tube transport could be the future.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson vient de donner son feu vert au HS2, un chantier ferroviaire colossal, extrêmement ambitieux, de lignes de train à grande vitesse à travers l'Angleterre. Et pourtant, c'est un projet très controversé, Marie Billon.
Il devait coûter l'équivalent de 65 milliards d'euros. Il pourrait finalement en valoir près du double. La construction de HS2 est devenue une épine dans le pied du gouvernement de Boris Johnson. D'un côté, il doit montrer qu'il veut améliorer le quotidien des habitants du Nord, qui sont nombreux à avoir abandonné le parti travailliste pour voter pour lui en décembre dernier. De l'autre, le projet s'enlise. Outre les coûts en constante augmentation, il y a les retards des travaux. La première partie de la ligne à grande vitesse reliant Londres à Birmingham devait être en fonction en 2026. Impossible finalement avant 2028, voire 2031. La seconde phase, qui devait aller jusqu'à Leeds, elle, enregistrerait entre 2 et 8 ans de retard. Mais le problème principal n'est pas là, disent les opposants au projet. Londres n'a pas de souci de connexion avec le reste du pays, c'est en province qu'on a du mal à se déplacer. Alors, il a été question d'abandonner la liaison Londres-Birmingham pour se concentrer sur la deuxième phase qui favoriserait le transport entre les villes de Crewe, Manchester et Leeds. La liaison entre ces deux dernières villes passerait de 2 heures à 49 minutes. Un vrai changement pour les usagers. Mais les supporters de HS2 assurent que c'est une fausse bonne idée car la ligne Londres-Birmingham permettrait d'améliorer le réseau tout entier et serait donc bénéfique aux trains régionaux. La question de l'empreinte carbone divise aussi partisans et opposants au projet. Les paysages dans les plus de 60 circonscriptions traversées par le chemin de fer seraient en tout cas modifiés.
Parmi les projets titanesques sortis de l'imaginaire du président turc Recep Tayyip Erdogan, il y a un rêve démesuré. Creuser un nouveau passage entre la mer Noire et la mer de Marmara qui entoure Istanbul. Mais le projet, censé voir le jour cette année, divise profondément les Turcs à Istanbul. Un reportage d'Anand Loer.
Sur un trottoir d'Istanbul, devant un bâtiment public, des centaines de Turcs bravent la pluie et le froid pour déposer une pétition contre un projet de leur président, Recep Tayyip Erdogan. Et pas n'importe quel projet, le plus démesuré de ceux qu'il ait jamais lancé en 17 années de pouvoir. Shukran et son ami Nourten attendent depuis bientôt 2 heures. Rien ne saurait les décourager.
Je suis né à Istanbul, j'aime Istanbul. Je refuse que ce projet détruise ma ville. Je suis là pour que mes petits-enfants puissent eux aussi vivre à Istanbul, pour que notre nature ne soit pas vendue parcelle après parcelle aux investisseurs du Qatar. Non à Canal Istanbul.
Non à la volonté d'un seul homme, ça ne marche pas comme ça, le peuple est là.
Canal Istanbul, ce nom d'apparence anodine cache un projet fou, ainsi que Tayyip Erdogan aime à le baptiser. Creuser un nouveau passage entre la mer Noire et la mer de Marmara, ces deux mers qui entourent la ville. Ce serait en somme un nouveau Bosphore qui doublerait à l'ouest ceux des trois symboles d'Istanbul. Ce serait transformé en île, la rive européenne de la mégapole, où vivent près des 2/3 de ses 16 millions d'habitants. En pratique, il s'agirait de creuser un canal de 40 km de long, 150 mètres de large et 25 de profondeur, pour un coût estimé à plus de 11 milliards d'euros. Principale justification, alléger la circulation sur le Bosphore, l'une des voies d'eau les plus fréquentées du monde. Mustafa Öcalan, ancien député du parti au pouvoir, spécialiste des transports, juge ce projet indispensable pour la sécurité d'Istanbul.
Le Bosphore vit à la merci d'un accident. Il est saturé de tankers, de bateaux de tourisme, de bateaux de transport municipaux, de bateaux privés. Or, c'est une voie de navigation compliquée, avec 16 intersections, des courants contraires, des navires qui arrivent de gauche, de droite, de partout. Chaque intersection représente un risque d'accident. Sans parler de la pollution que ces bateaux engendrent sur la péninsule historique, des risques de pollution maritime, Canal Istanbul, au contraire, c'est une voie d'eau toute droite, en sens unique, sans courant contraire. C'est un projet majeur de protection pour notre ville longue.
Mais ce projet suscite des critiques à la mesure de son gigantisme. Les opposants dénoncent avant tout ses conséquences environnementales. Ils se rassemblent au sein d'une plateforme dont le nom affiche l'enjeu, soit le canal, soit Istanbul. Beyza Üstün, ingénieur en environnement, dresse un tableau catastrophique.
Istanbul, telle que nous la connaissons, sera détruite si ce canal est creusé. De nombreuses réserves d'eau disparaîtront. Ce qu'il reste des forêts du nord d'Istanbul disparaîtra. Les côtes de la mer Noire et de la mer de Marmara seront ravagées. L'équilibre de leurs eaux sera anéanti. L'écosystème terrestre et marin sera détruit jusqu'en traces. Les eaux souterraines se gorgeront de sel et la terre avec elles. Tous les êtres vivants qui ne pourront pas survivre dans cet écosystème salinisé disparaîtront. Vous pourrez bétonner, étanchéifier les parois du canal autant que vous voudrez, vous n'empêcherez pas ces dégâts, c'est impossible. Bref, ce sera un massacre.
Recep Tayyip Erdogan avait lancé l'idée de Canal Istanbul en 2011, pendant une campagne électorale. Il avait semblé se raviser l'an dernier, en pleine récession économique, pour finalement relancer le débat il y a quelques semaines. Les premiers coups de pioche seront donnés avant la fin de l'année, a promis le dirigeant turc, même si personne ne sait encore comment sera financé ce canal titanesque. C'est d'ailleurs un autre argument des anti-canal, les risques économiques d'un tel chantier, qui endetterait davantage la Turquie et profiterait d'abord, selon eux, à des hommes d'affaires proches du président et à de riches investisseurs des pays du Golfe. Le pouvoir, au contraire, parle de créer 10 000 emplois directs, de contribuer à la croissance de l'économie turque et de renforcer la place d'Istanbul parmi les centres mondiaux du commerce maritime. Canal Istanbul est présenté comme un projet de prestige. L'ancien député Mustafa Ducalı balaie les critiques d'un revers de main.
Ces discours qui n'ont pour but que de répandre la peur n'ont aucun fondement scientifique. Je suis particulièrement attristé pour les dizaines d'experts qui ont examiné ce projet. C'est une insulte à leur travail. Tout ça, ce sont des disputes politiques. Certes, vous avez un groupe qui soutient Canal Istanbul sans rien savoir sur le projet. Mais vous avez aussi tous ceux qui le rejettent sans aucune connaissance. Je veux parler de ceux qui brandissent le slogan « soit le canal, soit Istanbul ».
Pour ses opposants, ce projet est surtout une question de survie politique pour Recep Tayyip Erdogan. Après de lourds revers aux municipales de l'an dernier, le président assiste en effet à l'érosion de sa base et à une scission de son parti. Or, Canal Istanbul divise la société. Et le dirigeant turc est un adepte du principe « diviser pour mieux régner ». Canal Istanbul lui permet déjà d'accuser ses opposants d'être des ennemis de l'intérêt national. Beyza Üstün.
Notez aussi qu'à Istanbul, le pouvoir n'a plus rien d'autre à vendre à ses chers promoteurs immobiliers et autres réseau clientéliste. Il compte sur ce projet pour assurer sa survie politique. Mais vous verrez, c'est dans Canal Istanbul que ce pouvoir coulera, grâce à la résistance de tous ses opposants.
Le bras de fer est donc engagé. Mi-janvier, l'étude d'impact environnemental favorable au canal a été définitivement approuvée. Prochaine étape, le lancement d'un appel d'offres. Mais l'opposition n'a pas dit son dernier mot. Avec, dans le rôle du premier opposant, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, il promet de tout faire pour bloquer les travaux.
Ce tunnel-là ressemble à un serpent de mer, le Helsinki, un tunnel ferroviaire sous-marin permettant de relier l'Estonie à la Finlande entre Tallinn et Helsinki. Deux entrepreneurs finlandais associés à des investisseurs chinois relancent aujourd'hui ce vieux projet et ça suscite quelques inquiétudes, Marielle Vituro.
En 2008, les maires de Tallinn et d'Helsinki se mettaient d'accord pour lancer une étude de faisabilité du projet. Pour les deux édiles, le Helsinki faisait sens pour réduire à quelques dizaines de minutes les deux heures de traversée en ferry. 12 ans après, la vie économique des deux capitales est plus imbriquée que jamais. Près de 10 millions de voyages sont réalisés chaque année entre les deux villes en bateau. Depuis 2019, par exemple, les ordonnances finlandaises sont acceptées dans les pharmacies estoniennes. Il serait aussi logique de prolonger jusqu'en Finlande la ligne de chemin de fer en construction dans les trois pays baltes. Il y a 2 ans, l'étude de faisabilité a enfin été réalisée par le gouvernement estonien. Le tunnel pourrait être achevé d'ici 2040. Tallinn attend désormais de se mettre d'accord concrètement avec Helsinki sur ce projet. Mais depuis peu, les deux capitales sont coursées par les ambitions presque démesurées de deux entrepreneurs finlandais. Grâce à un fonds d'investissement chinois, Peter Vesterbacka et Kusta Valtonen comptent eux aussi construire un tunnel sous le golfe de Finlande, et ce, en un temps record. Un projet qui s'inscrit parfaitement pour Pékin dans son ambition de reformer la route de la soie. Selon une enquête de Rebaltica, un site de journalisme d'investigation, ce pourrait être le plus grand investissement chinois en Europe du Nord et avec lui, une influence accrue politique et technologique de la Chine dans la région. Une menace dénoncée depuis l'année dernière par les services de renseignement des pays baltes.
En 2021, la plus grande serre tropicale au monde sera érigé sur la côte d'Opale.
La faune et la flore des tropiques dans le nord de la France. C'est le rêve d'un promoteur du Pas-de-Calais qui veut construire une serre tropicale géante de 20 000 mètres carrés. Un projet pharaonique, 73 millions d'euros, soutenu par les élus locaux et contesté par les écologistes, Lise Verbeck.
L'homme à l'origine de Tropicalia, c'est Cédric Guérin. Il a grandi en Afrique équatoriale et après ses études, il s'est installé comme vétérinaire dans le Pas-de-Calais. Captivé par la faune et la flore tropicale, il voulait partager cette passion passion, explique-t-il. Il veut construire une serre de 20 000 mètres carrés, remplie de milliers de papillons, d'oiseaux, de loutres, de grenouilles et des centaines de plantes tropicales, le tout sous un dôme d'une trentaine de mètres de hauteur. Un projet critiqué par les écologistes du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil, qui s'apprête à déposer un recours au tribunal administratif pour retarder les travaux qui devraient démarrer au printemps. Tropicalia pose d'abord selon eux un problème d'un point de vue éthique. L'époque n'est plus à la détention en captivité d'animaux, même d'élevage, dénonce-t-il. Ils se disent également dubitatifs quant à la consommation d'énergie du dôme. La température intérieure de la serre sera maintenue tout au long de l'année entre 26 et 28 degrés. Il était impensable pour le vétérinaire d'imaginer la chauffer avec des énergies fossiles. La serre sera donc autonome, assure-t-il, avec un double dôme chauffé par des énergies renouvelables. Et la chaleur excédentaire recueillie en été sera stockée pour chauffer lors des mois d'hiver grâce à un système d'échangeurs mis au point par une entreprise nordiste. Pour les opposants, l'étude d'impact menée pour le projet n'est pas assez détaillée et il y a un flou sur l'aspect technique selon eux. Les élus des communes proches sont favorables au projet. Il créera une cinquantaine d'emplois directs. Les acteurs économiques de la Côte d'Opale le sont également car ils en attendent des retombées. Ils espèrent que la serre attire 500 000 visiteurs chaque année, moins que les 800 000 visiteurs annuels de Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe situé dans la région à Boulogne-sur-Mer.
En Italie, les élections régionales de janvier en Émilie-Romagne ont été le théâtre d'une âpre bataille politique. Le Parti démocrate a finalement conforté son assise dans ce bastion historique de la gauche, infligeant une défaite à la Ligue, le parti de Matteo Salvini, et cela grâce à une femme, Elie Schlein, un portrait signé Elliot Brachet.
Je comprends que tu écrives des tweets en aboyant contre l'Europe qui n'en fait pas assez, c'est vrai, mais les règles injustes se changent autour d'une table, Matteo. Tu n'es jamais venu à Bruxelles pour les réformer en un an et demi, ok ? Parce que c'est facile de faire des tweets, mais quand il s'agit de changer quelque chose, là, il n'y a plus personne.
La vidéo est devenue virale en Italie. À quelques jours du scrutin décisif en Émilie-Romagne, Elie Schlein étrille Matteo Salvini. La jeune candidate, ex-députée européenne, lui reproche son absentéisme lors des discussions sur l'immigration à Bruxelles. Et cette altercation propulse Elie Schlein sous le feu des projecteurs. Pourquoi est-elle devenue une épine dans le pied de l'extrême droite en Émilie-Romagne ? Linda De Matteo, auteure d'une thèse sur la Ligue du Nord.
Mais disons que ces dernières années, la Ligue a gagné des votes en disant que le meilleur moyen de régler les problèmes que connaissait actuellement l'Italie, c'était de stopper l'arrivée des étrangers, de stopper les débarquements. En fait, pour Matteo Salvini, tout s'est joué sur cette question. Mais Salvini ne s'est pas rendu dans les réunions. Donc c'est vraiment un problème pour la Ligue. Et lorsqu'elle lui a posé cette question-là, il lui a tourné le dos, il est parti. Et ça lui a fait très mal électoralement, parce que là, elle a montré à quel point il était incohérent.
Elie Schlein a seulement 34 ans. Née en Suisse d'une mère italienne et d'un père américain, elle étudie le droit à l'université de Bologne. Elle choisit un parcours militant et fait ses armes à Chicago où elle participe à la campagne de Barack Obama. De retour en Italie, elle est d'abord affiliée au Parti démocrate, élue au Parlement européen, puis Elie Schlein décide de se recentrer sur sa région d'adoption, l'Émilie-Romagne. Son atout, faire campagne au plus près des gens, explique Marco Imaricio, journaliste au Corriere della Sera.
Elie Schlein a fait beaucoup de campagnes dans les terroirs que la gauche traditionnelle a désormais abandonnés. Elle a écouté beaucoup, pas seulement les manifestations. Elle est allée dans les banlieues oubliées et qui sont devenues la propriété électorale de la Lega.
La campagne d'Elie Schlein a séduit une bonne partie des sardines. Ce mouvement spontané qui est apparu sur les grandes places d'Italie pour rejeter l'extrême droite. Elie Schlein se dit proche de ses sympathisants antifascistes et indépendants, mais elle se défend de toute récupération politique. Une chose est sûre, Elie Schlein fait l'effet d'un souffle d'air frais à gauche de l'échiquier politique italien.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez réécouter l'émission sur RFI.fr ou vous abonner au podcast d'Accent d'Europe sur votre plateforme préférée. À bientôt.